quand on parle effectivement des élections aux États-Unis, on a l'impression que les élections se passent dans tout le pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les élections se jouent surtout dans une poignée d'États, une douzaine d'États qui rassemblent seulement un tiers de la population et qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire ces États pivots qui basculent d'un camp à un autre. Parce que ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est qu'aux États-Unis, le scrutin ne se fait pas au niveau national, mais se fait État par État et qu'un candidat qui gagne un État se fiche finalement de gagner avec une voix d'avance en écrasant son adversaire, de toute façon, ce sera lui qui remportera toutes les voix de l'État. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où, quand un État est acquis à l'un des deux camps, comme l'est New York, par exemple, pour Barack Obama, ou l'Utah pour Mitt Romney, eh ben, aucun des candidats n'a intérêt à faire campagne là-bas. Donc on se retrouve dans cette situation duale, et cette dualité est particulièrement visible dans le sud des États-Unis. Alors, le sud des États-Unis a cette particularité que pendant assez longtemps, il a voté comme un seul homme pour l'un des deux camps, donc pendant 100 ans pour les démocrates jusqu'aux années 70, puis pour les républicains à partir de ces années-là, ce qui vient qu'entre 1970 et 2008, seuls les présidents Carter et Clinton, qui étaient originaires du Sud tout en étant démocrates, sont parvenus à remporter un des anciens États de la Confédération. Or, la situation a changé en 2008 avec l'élection d'Obama, qui a réussi à remporter la Caroline du Nord, la Virginie et la Floride, qui constituent un cas un peu particulier, et qui a créé en fait une sorte de fracture dans le Sud entre un Sud profond, un Deep South, et puis un nouveau Sud qui a basculé du côté des swing states, de ces États particulièrement disputés. Alors, je compare un peu dans l'article qui est issu de ce reportage, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, puisque ces deux États ont voté depuis 1968, voté systématiquement pour le même candidat. Et en 2008, la Caroline du Sud a voté pour John McCain, donc le candidat républicain, et la Caroline du Nord pour Barack Obama, donc le candidat démocrate. Alors je me suis demandé pourquoi on était arrivé à cette division, et répondre à cette question éclaire non seulement le jeu politique dans le sud des États-Unis, mais aussi la stratégie électorale plus globale des deux partis. Parce qu'on peut constater, quand on voyage un petit peu là-bas, que la Caroline du Sud, c'est un État rural qui vit encore de son industrie traditionnelle, le textile, l'automobile, qui reste là parce qu'il y a des législations très défavorables aux syndicats. Tandis que la Caroline du Nord, pour faire face à la crise de l'industrie textile, a commencé à miser sur une économie hautement qualifiée, sur la recherche, sur l'éducation, et ce qui a entraîné un développement économique assez spectaculaire de la région, où aujourd'hui Charlotte, la principale ville de l'État, est la deuxième ville bancaire des États-Unis. C'est là d'ailleurs que se situait la Convention démocrate en septembre. L'État compte aussi 3 des 30 meilleures universités américaines, 14 des 500 plus grandes entreprises américaines, contre 0 pour la Caroline du Sud. Donc ce développement économique a engendré l'arrivée d'une nouvelle population, puisque depuis les années 90, la population a doublé. Et ces nouveaux habitants, ce sont aussi des nouveaux votants. Et ces nouveaux habitants, ce sont des diplômés, des travailleurs qualifiés, des gens appartenant aux minorités ethniques, des Noirs, des Hispaniques.
Démocrates.
Traditionnellement, on estime qu'à peu près les Hispaniques votent pour les deux tiers pour les démocrates. Les Afro-Américains, c'est plus de 95% pour les démocrates. Et donc, davantage que le débat politique en lui-même, c'est donc les mutations démographiques de l'État qui ont fait basculer la Caroline du Nord d'un camp à un autre. Et ce constat est d'ailleurs particulièrement visible au niveau local. J'analyse un peu plus précisément dans l'article deux comtés voisins, dont l'un qui abrite la ville de Charlotte a bénéficié de ce développement économique et abrite seulement 51% de blancs. Et le comté voisin qui abrite 75% de blancs, qui a des revenus 30% inférieurs, le premier a voté à 62% pour Obama et le second à 62% pour John McCain en 2008. Alors quand on entend ça, on peut pas s'empêcher de faire un peu un parallélisme entre le Parti socialiste et puis le Parti démocrate.
Socialiste et démocrate.
Le Parti socialiste français, oui. Et le Parti démocrate américain.
Okay.
Et de repenser à ce rapport de Terra Nova qui, en 2011, préconisait que le Parti socialiste s'axe désormais sur les habitants des banlieues, les femmes, les jeunes, et délaisse l'électorat ouvrier et les retraités qui ont forgé longtemps le socle de la gauche française. Et en fait, c'est un petit peu la même stratégie qu'adopte le parti démocrate aux États-Unis. Plutôt que de tenter de convaincre les blancs pauvres, les ruraux ou les retraités, il a patiemment attendu que la population de ces États change, la Caroline du Nord, la Virginie, pour commencer à y faire campagne et pour parvenir à s'y imposer. Et c'est un petit peu cette stratégie qu'ils essaient de rééditer cette année.
This election is gonna be close.
Cette élection va être serrée.
Colorado is gonna be close.
Au Colorado, ça va être très serré.
So I gotta make sure your friends are registered. I gotta make sure
Donc
you're
je veux
registered.
Être sûr que vous tous et vos amis êtes bien inscrits sur les listes électorales.
In Colorado, you can
Ici,
register
dans le Colorado,
online.
Vous pouvez vous inscrire en
so
ligne.
You gotta go to, gottaregister.com.
Il suffit d'aller sur le site
gottaregister.com. G-O-T-T-A.
Oui, ça s'écrit GOTTA. G-O-T-T-A.
Oh,
oh,
ah,
I.
Oh, bye. Oh, bye.